Bonsoir. Donc, en traversant le deuxième poncif qu'on a vu hier sur la question du rapport à l'écriture et plus généralement au livre, on avait vu que ce qui était remis en question par le problème du livre, c'était justement l'attitude que l'on devait avoir par rapport à un écrit philosophique et par rapport à la démarche de la philosophie elle-même. Alors je vous rappelle simplement quelques points qu'on avait pu mettre. Je crois que ce soir je vais m'asseoir, excusez-moi, mais je suis un peu fatigué. Donc on avait vu quelques points de définissant le style de la démarche philosophique. À partir de Hume, donc je vous le rappelle, celui-ci on l'a beaucoup développé déjà, la tension entre vérité et créativité. Mais aussi à partir de Foucault, un certain nombre de choses étaient apparues hier dans le rapport au livre. Toute la question de ce que Foucault appelait la parésia, qui était propre donc au discours philosophique. Qu'est-ce que c'était la parésia? On avait vu que c'était une forme de discours qui, alors si on essaye de dire ça de manière un peu générale, était sans filet, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque vérité sous prétexte qu'il était assimilable ou à une structure rationnelle, comme dans la démonstration, soit quelque chose de l'ordre de la flatterie ou du mensonge, comme dans la séduction ou dans la rhétorique. Et donc, dans cette parésia, Foucault précisait que le discours philosophique devait être une parole ou un discours ou une démarche absolument libre prenant place dans l'espace public. Et donc, on avait vu à partir de tout ça que le rapport, que la question de l'écrit ou de l'écriture de la philosophie n'était pas, le fait d'écrire n'était pas en soi une preuve suffisante de la démarche philosophique, mais que cette démarche devait être appuyée, que ce soit dans l'écriture ou dans la lecture, sur une forme d'étonnement. Donc c'est ça que c'était, cette forme d'étonnement qui semblait absolument essentielle pour définir le style philosophique. Et donc ce soir, en traversant cette fois-ci le troisième poncif que j'avais défini, c'est-à-dire, j'avais appelé poncif, vous vous souvenez, les réponses courantes que l'on donnait à la question des différentes crises possibles de la philosophie, d'existence, d'identité et de légitimité. Et la dernière question, celle qu'on n'avait pas encore abordée, c'est la crise de légitimité. La réponse le plus souvent apportée étant que la philosophie était, est-ce qu'elle est utile ou non, est-ce qu'elle a une légitimité, est-ce que la démarche philosophique a une légitimité aujourd'hui ou non. Et souvent, ce qu'on répond à ça, oui, c'est possible que la philosophie ne serve à rien, mais on a tellement besoin de choses inutiles dans notre monde qui est autant axé sur l'utilité, la consommation, l'efficacité, la philosophie serait un luxe agréable. Donc, pour le dire de manière un peu plus radicale, bref, c'est un joli divertissement, mais sans conséquences. Ou bien alors, au contraire, elle est vue comme une, là, de façon totalement assumée, c'est-à-dire comme quelque chose de totalement inutile, et même comme un discours qui serait tellement érudit et abstrait qu'il serait sans prise du tout sur la réalité. Alors, c'est ce point-là que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que la philosophie, toujours dans la question, donc dans cette fois-ci, dans le fait d'envisager une crise de légitimité de cette philosophie, est-ce que la philosophie n'est qu'un luxe intellectuel? Est-ce qu'elle n'est qu'une dimension abstraite, une dimension d'érudition qui n'a pas son rôle à jouer dans une perspective sociale, politique, mais même aussi esthétique, ou quel que soit le champ. Est-ce que la philosophie a son propre style, c'est-à-dire est-ce qu'elle a est-ce qu'on peut lui définir un objet de prédilection? Est-ce qu'elle a une spécificité particulière qui serait une spécificité autre que le simple fait d'être une capacité à réfléchir sur tout? Est-ce que la philosophie a son propre style? Comme on me l'a fait remarquer hier lors des questions qui ont été posées, évidemment, cette question, elle suppose, et ça va être un préalable, hein, peut-être un tout petit peu long, mais un préalable nécessaire, qu'est-ce qu'on va entendre par style? Et c'est là que les choses se corsent un peu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du style? Qu'est-ce que c'est qu'un style? Alors un style, déjà au premier abord, ça signifie grosso modo deux choses. On parle de style généralement pour classer des œuvres artistiques en fonction de certains critères plastiques, musicaux, esthétiques, suivant l'art que l'on considère. C'est-à-dire que le style, c'est un ensemble de critères qui définissent une époque ou quand on parle du style classique, du style baroque. Donc c'est l'ensemble des critères qui définissent une époque esthétique et artistique particulière. Et puis le style, c'est également, quand on dit de quelqu'un qu'il a du style, c'est la qualité qu'on prête à celui qui sait écrire de manière originale et selon des traits vraiment reconnaissables, dignes d'intérêt et d'éloge. Bien. C'est les deux définitions assez courantes du style, mais on va voir que ces définitions, il suffit de les analyser un tout petit peu pour se rendre compte qu'elles sont totalement paradoxales. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on essaye de comprendre. Donc pour essayer de comprendre ça, je vais faire ce qu'on fait souvent aussi en philosophie, c'est qu'on essaye de revenir aux origines d'un terme. Et donc, le mot style vient de quoi? Bien, le mot style, alors déjà, il y a quelque chose de bizarre, c'est que style, ça vient de stylus, en latin, qui s'écrit avec un i, et on ne voit pas bien ce qu'un y vient faire dans une origine latine. Alors en fait, il y a eu deux mots qui se sont un peu contaminés. C'est effectivement stylus en latin, je vais revenir sur sa signification, et stulos en grec qui signifie la colonne. L'influence de l'étymologie grecque, elle est relativement peu présente en français. Si ce n'est peut-être chez certains écrivains, on le retrouve notamment, je crois, chez Chateaubriand, qui utilise le mot style parfois pour parler de colonne. Bref. En tout cas, style, qu'est-ce que ça désigne, stylus? Au départ, stylus désigne le petit instrument qui sert à un scribe, on appelle ça, qui servait en fait à inscrire dans la cire les différentes traces qui servaient à écrire, tout simplement. C'est le premier moyen d'écrire. Donc le style, c'est ce qui inscrit quelque chose dans la cire, au départ. C'est un petit instrument. Et donc, bon, si on voit cette étymologie de manière un peu métaphorique, mais on va voir que c'est pas totalement injustifié, on voit que le style, c'est déjà quelque chose, concrètement parlant, hein, dans cet outil, quelque chose qui fait le lien entre ce qui est de l'ordre d'un geste individuel vers une trace signifiante et intersubjective. Donc là, c'est déjà un outil qui permet ça, d'une certaine façon. Donc là, c'est certes peut-être une interprétation un peu poussée d'un point de vue métaphorique au niveau de la simple étymologie et de l'outil, mais on va voir qu'elle n'est pas totalement gratuite, loin de là, parce que cette question du style, enfin cette ambiguïté entre le geste individuel et la capacité par ce geste à réaliser quelque chose qui va inscrire un sens et créer quelque chose d'intersubjectif, ça va être justement cette notion de passage qui va être essentielle dans le style. Je voudrais vous en donner, à travers l'histoire de ce terme, quelques exemples pour vous montrer que le style a toujours été cette espèce de frontière entre la subjectivité et l'intersubjectivité. Par par exemple, dans le style, du fait de son étymologie liée à l'écriture, est d'emblée passé ensuite dans le domaine de la rhétorique. Dans la rhétorique, alors là, la rhétorique, vous savez, c'est toute la discipline qui consiste à essayer de définir les règles de l'art dans la parole. Et donc, la rhétorique distingue trois types de discours qu'elle appelle trois styles, et on doit ça notamment à Aristote. Discours judiciaire, discours délibératif, discours épidictique, bon, peu importe le sens de tout ça, mais c'est pour vous dire que la notion de style définit à ce moment-là l'ensemble des codes, des critères et des caractéristiques que doivent respecter chaque type de discours en fonction des personnes auxquelles elle s'adresse. Et donc, chaque personne qui parlait ou écrivait en fonction du public qu'elle visait devait respecter un certain nombre de codes, et cet ensemble de codes et de caractéristiques dans la rhétorique, c'est ce qui s'appelait un style. Et quel était le but de cet établissement de caractères, de critères dans le style? Le but, c'était justement de ne pas permettre au sujet parlant de trop traduire sa subjectivité, de parler de manière trop passionnelle, et au moment du discours. Alors le problème n'est pas seulement historique ici, mais il faut quand même voir que donc tout ça, cette tradition de la rhétorique, ce lien du style à la rhétorique, ça dure, je schématise, mais grosso modo jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. La notion de style, elle va s'élargir énormément à partir du XVIIIe. Et elle va prendre deux directions un peu différentes. Lesquelles? Eh bien, d'une part, elle s'élargit au domaine de l'art en général. Donc on dépasse le seul domaine de l'écriture pour s'élargir vers la question de l'art. Et là, elle acquiert la définition que je vous ai donnée tout au début, c'est-à-dire qu'elle définit l'ensemble des critères, des techniques, des caractéristiques qui vont identifier une certaine époque dans l'art. Et ça, c'est la première direction qu'elle prend au XVIIIe siècle. Mais l'autre direction qu'elle prend, c'est liée à un discours d'un homme qui s'appelle Buffon. Discours prononcé à l'Académie française en 1753. C'est une phrase qui est restée célèbre et qui a été beaucoup reprise par Lacan notamment. C'est « Le style, c'est l'homme même ». Autrement dit, il faut entendre dans cette phrase « Le style, c'est l'homme même », c'est-à-dire que le style, c'est la caractéristique la plus singulière, la plus particulière, qui nous permet d'identifier quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela au sujet du style? Parce que ce qui revient tout le temps dans cette notion de style, ce sont deux approches, deux aspects, deux pôles, si vous voulez. D'un côté, le style, c'est une catégorie, un élément de classement. Et dans ce cas-là, il correspond à un ensemble de règles ou de critères généraux qui sont relativement systématiques. C'est un système de code qui permet de reconnaître quelque chose. Mais d'un autre côté, le style, c'est aussi une certaine manière de faire quelque chose. Je dis bien une certaine manière, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument original. Bref, l'autre caractéristique fondamentale du style, c'est de sortir de tout système de représentation, de tout système de code, de tout système de critères établi. Autrement dit, le style, c'est à la fois ce qui installe un système de représentation et ce qui se situe hors de tout système de représentation. Pourquoi parle-t-on de style chez un peintre, par exemple? Parce que Un peintre est réellement un artiste et ne crée son style qu'à partir du moment où sa manière de peindre déjoue tous les critères de la peinture qui lui ont succédé. Donc, il devient d'une certaine façon totalement original, mais aussi où à partir de cela, être original, ça ne suffit pas pour avoir un style. Pour que cela devienne un style, il faut aussi que cette originalité devienne un nouveau type de critère distinctif, un nouveau système de représentation possible. Et donc, le style, si on essaye de résumer tout cela, le style, ça va être une forme d'expression qui incarne le moment d'un passage. Le passage d'un geste singulier de quelqu'un ou de quelque chose, mais plutôt de quelqu'un en général, c'est quand même un sujet, à une dimension intersubjective. Le style, c'est une forme d'expression qui va souligner un manque dans un système de représentation et de critères établis, un manque, une absence, et qui, simplement en exprimant ce manque, en cherchant à le décrire, en cherchant à dire ce qu'est ce manque, eh bien, simultanément, crée quelque chose. Autrement dit, le manque n'est pas uniquement quelque chose de négatif. Le style va souligner ce qui manque dans quelque chose et en même temps créer en faisant cela. J'essaye de vous donner un nouvel exemple en peinture parce que c'est l'endroit où on saisit le mieux les choses, le mieux la question du style. Là aussi, je vais schématiser un peu, mais c'est pour qu'on comprenne. Au fond, qu'ont fait les impressionnistes par rapport à ce qu'on pourrait déterminer, là aussi je généralise, mais disons par rapport à la peinture classique. Les impressionnistes ont posé, entre autres choses, une question essentielle. Est-ce que on peut réussir à donner l'impression de la profondeur autrement que par un système géométrique de perspective? Jusqu'à la Renaissance, grosso modo, les moyens de rendre compte de la profondeur sont essentiellement, à partir de la Renaissance, sont essentiellement liés à, vous savez, ce qu'on appelle l'établissement dans la peinture d'un point qui concentre les différentes lignes de fuite du tableau. Et la profondeur était rendue par un certain nombre de proportions mathématiques. Que disent les impressionnistes? Est-ce que vraiment c'est la seule manière de dire, d'exprimer la profondeur? Est-ce qu'on ne manque pas quelque chose en faisant ça? Et au fond, les impressionnistes abolissent les lignes et vont montrer que la profondeur peut s'exprimer par un simple rapport de couleur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a simplement une question posée à un système de représentation établi. Est-ce que la profondeur n'est que cela? Est-ce que vraiment on ne peut rien dire d'autre? Est-ce que moi ça ne me satisfait pas, cette représentation de la profondeur? Et on essaye de l'exprimer autrement et on crée un style à partir de cela. Et bien le style, ce n'est ni le moment de pure originalité, ni le moment où on va catégoriser tout cela, c'est ce moment du passage. Si on accepte cette définition, cette approche du style, le style est ce qui viendrait souligner un manque et, en l'exprimant, créerait quelque chose. Si on applique ça à la philosophie, du coup, que serait un style philosophique ? Ce serait la création de quelque chose de particulier à partir d'un manque ou d'un étonnement, j'y reviendrai, lié à un philosophe particulier ou à une démarche philosophique particulière. Une création de quoi? Alors vous savez qu'il y a un philosophe qui répond de manière un peu radical mais développé aussi, c'est à lui qu'on va s'intéresser maintenant, c'est Gilles Deleuze. La philosophie, c'est, dit-il, une création de concepts. et le style de la philosophie consiste à créer des concepts. Alors, simplement pour vous donner une petite idée de l'importance de la création chez Gilles Deleuze, le fait que le manque ou la critique ne soit pas que justement que manque ou critique, je vous lis juste un tout petit passage de Qu'est-ce que la philosophie ? J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus longuement juste après, mais déjà, pour avoir une petite idée. Critiquer, dit Gilles Deleuze, c'est seulement constater qu'un concept s'évanouit, perd de ses composantes ou en acquiert qui le transforme quand il est plongé dans un nouveau milieu. Mais ceux qui critiquent, sans créer, ceux qui se contentent de défendre l'évanoui sans savoir lui donner les forces de revenir à la vie, ceux-là sont la plaie de la philosophie. Ils sont animés par le ressentiment, tous ces discuteurs, ces communicateurs. Ils ne parlent que d'eux-mêmes en faisant s'affronter des généralités creuses. Donc vous voyez, l'esprit critique auquel on associe la philosophie, pour Gilles Deleuze, ça n'est vraiment pas suffisant. La question d'associer à la critique la démarche fondamentale de la création est quelque chose, bon, les mots sont suffisamment durs et explicites pour qu'on le comprenne, la création est absolument liée à la démarche critique en philosophie, pour Deleuze. Comment Gilles Deleuze comprend-il cette création de concept ? Comment cette création de concept a-t-elle lieu ? Alors là aussi, je vais vous lire un passage un petit peu plus long et qui va nous permettre de revenir à la fois sur le troisième poncif dont je vous ai parlé, la réponse courante qu'on lui donne et ce que Gilles Deleuze, justement, répond à ça. Il parle donc de la philosophie. La philosophie n'est pas réflexion. Parce que personne n'a besoin de philosophie pour réfléchir sur quoi que ce soit. On croit donner beaucoup à la philosophie en en faisant l'art de la réflexion, mais on lui retire tout. Car les mathématiciens comme tels n'ont jamais attendu les philosophes pour réfléchir sur les mathématiques, ni les artistes sur la peinture ou la musique. Dire qu'ils deviennent alors philosophes est une mauvaise plaisanterie, tant leur réflexion appartient à leur création respective. Et la philosophie ne trouve aucun refuge ultime dans la communication, qui ne travaille en puissance que des opinions pour créer du consensus et non du concept. Je reviendrai là-dessus. L'idée d'une conversation démocratique occidentale entre amis n'a jamais produit le moindre concept. Elle vient peut-être des Grecs, mais ceux-ci s'en méfiaient tellement et lui faisaient subir un si rude traitement que le concept était plutôt comme l'oiseau soliloque ironique qui survolait le champ de bataille des opinions rivales anéanties. La philosophie ne contemple pas, ne réfléchit pas, ne communique pas, bien qu'elle ait à créer des concepts pour ses actions ou passions. La contemplation, la réflexion, la communication ne sont pas des disciplines, mais des machines à constituer des universaux dans toutes les disciplines. Je reviendrai également sur ce terme des universaux, parce qu'il le développe. Les universaux de contemplation, puis de réflexion, sont comme les deux illusions que la philosophie a déjà parcourues dans son rêve de dominer les autres disciplines. Et la philosophie ne s'honore pas davantage en se présentant comme une nouvelle Athènes et en se rabattant sur des universaux de la communication qui fourniraient les règles d'une maîtrise imaginaire des marchés et des médias. Toute création est singulière, et le concept comme création proprement philosophique est toujours une singularité. Le premier principe de la philosophie est que les universaux n'expliquent rien, ils doivent être eux-mêmes expliqués. Alors, c'est une page qui est très très dense. Première chose, vous voyez que il n'est pas question de réduire la philosophie à une manière de réfléchir sur toute chose. Ça n'est pas une formation de l'esprit qui permettrait de parler de tout et de n'importe quoi. Donc on n'est pas dans la communication, on n'est pas dans la contemplation, on n'est pas dans la discussion, dit Gilles Deleuze. Pourquoi ? Parce que dit-il, tout cela sert à créer du consensus et pas du concept. Et ce qu'il appelle des universaux sont ce qu'il découlerait de ce qu'il appelle le consensus. Alors qu'est-ce qu'il entend par universaux ? De manière générale, je ne vais pas revenir sur ce qui s'appelle la querelle des universaux dans l'histoire, ce serait trop long, mais de manière générale, ce qu'on appelle les universaux, ce sont des termes qui réunissent et qui donnent une unité à un ensemble de réalités distinctes et qui sont censés expliquer cette réalité, qui sont censés expliquer la réalité. Je vous donne un exemple. Je vais en parler à partir de la philosophie platonicienne, par exemple. Et on a souvent confondu concepts et universaux pour Deleuze. Si on parle de Platon, alors je développe un tout petit peu sa philosophie, je l'avais un peu évoqué aussi hier. Pour Platon, notre expérience sensible, c'est-à-dire ce que nous vivons au jour le jour dans le monde, notre sensibilité, n'est pas à même de nous faire accéder à la vérité, à la réalité elle-même. Pour des raisons très simples, par exemple, est-ce que vous sentez que la Terre tourne ? Là, non. Or, la Terre tourne. Donc notre sensibilité est trompeuse. Comment on peut savoir ça, dit Platon ? Eh bien, il faut quitter notre sensibilité par l'intelligence et se référer à ce qu'il appelle l'idée des choses. L'idée. Et l'idée, chez Platon, a un statut extrêmement particulier parce que l'idée est ce qui incarne la réalité elle-même, chez Platon. Il y a même, dit-il, un monde des idées qui s'oppose au monde des essences, qui s'oppose au monde sensible dans lequel nous vivons. Alors comme ça, ça fait un peu mystique, ça fait un peu croyance. Mais il faut se rendre compte que Platon pense au contraire que la notion d'idée est ce qui nous permet de sortir de toutes nos illusions. Et il va chercher à expliquer donc l'ensemble de la réalité par ce qu'il appelle, ça c'est un mythe assez célèbre chez Platon, le mythe de la caverne, ce qu'il appelle la contemplation de l'idée. C'est-à-dire qu'il faut quitter le monde d'ombre dans lequel nous vivons parce que tout ce monde, sous tout ce monde sensible, est un monde illusoire. Il faut chercher à accéder à l'idée des choses par l'intelligence. Et dans toute l'œuvre platonicienne, cette notion d'idée est une notion extrêmement problématique. Parce que, au fond, on comprend la démarche de Platon, il veut nous faire quitter le monde sensible, mais cette idée, il explique tout avec, et pourtant on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un mot ? Est-ce que c'est un être ? Est-ce que c'est une dimension abstraite ? Est-ce que c'est une théorie ? Est-ce que c'est un langage ? On ne sait pas vraiment ce que c'est que la nature d'une idée chez Platon. Et pourtant, on explique tout. Platon explique toute la réalité à partir de ça, tout notre rapport à la réalité à partir de ça. Alors du coup, là encore, il va y avoir deux manières de transmettre et d'enseigner cette philosophie. Soit on vous dit ça, c'est-à-dire la réalité pour Platon est dans la contemplation de l'idée, et puis on se contente de répéter ça, d'essayer de développer ça, sans comprendre ce que ça veut dire. Ou bien, dit Gilles Deleuze, c'est ce qu'il dit à la fin du passage que je vous ai lu, le premier principe de la philosophie est que les universaux n'expliquent rien, ils doivent eux-mêmes être expliqués. Autrement dit, ce qui est intéressant chez un auteur, ce n'est pas de répéter les concepts qu'il emploie, mais plutôt quel est le type de manque ou d'absence ou d'inconnu que masque un concept chez un auteur. Autrement dit, il ne s'agit pas de répéter Platon en disant que l'idée est ce qui explique tout. Gilles Deleuze dirait plutôt ce concept d'idée chez Platon est vraiment quelque chose de bizarre. La question est pourquoi Platon, précisément sur ce concept-là, a besoin de garder une certaine ambiguïté ou quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que masque ça ? Et cette démarche-là, cette démarche philosophique, elle est extrêmement importante parce que un concept en philosophie, ça ne sert pas à être répété, ça sert à être interrogé. Quand on parle, ça c'est des, je vais réciter un très grand nombre de concepts connus ou moins connus de la philosophie, mais quand on parle du cogito chez Descartes, le fameux je pense donc je suis, franchement, ce concept en tant que tel, tout le monde le connaît, ça veut dire quoi? Il faut interroger tout cela. Et quand quelque chose est aussi radicalement posé, on peut parler de ça, on peut parler de la substance chez Spinoza, on peut parler de la monade chez Leibniz, on peut parler... Tous ces concepts sont, si vous les interrogez deux secondes dans leur rapport à la réalité, il y a quelque chose qui est choquant. J'en développerai un tout à l'heure pour vous le montrer. Donc, le problème, quand on a quelque chose comme ça qui se pose comme une unité absolue, qui est censée expliquer la réalité, le problème, ce n'est pas de répéter cette unité et d'en faire un dogme. Le premier, c'est de montrer de quel manque témoigne cette unité apparente. Et c'est ça, pour Deleuze, qui amène à la création d'un concept. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, à partir du moment où ce manque a été souligné, qu'on va pouvoir créer un concept. Alors, qu'est-ce que c'est un concept? Là, c'est... comment dire les choses rapidement? Un concept, pour Gilles Deleuze, c'est ce qui va... déjà, il a des composantes. C'est-à-dire qu'il réunit un concept, plusieurs choses à la fois. Et il réunit quoi? Ben, ce qui va faire naître un concept chez Gilles Deleuze, c'est notre capacité à saisir dans la réalité les signes de nouveauté en train d'émerger. Et le concept, c'est ce qui va réunir l'ensemble de ces signes et qui va nous permettre de comprendre la réalité autrement, de l'expérimenter autrement. Donc il ne s'agit pas de dire, pour Gilles Deleuze, qu'un concept, ce n'est pas quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Ce n'est pas le problème. Dans l'ordre du concept, on n'est pas dans l'ordre du vrai ou du faux, on est dans l'ordre du sens. De quelque chose qui donne sens. Donc là, vous avez l'idée déjà de ce qu'est une démarche philosophique. Alors, pourtant, sur un point, donc Gilles Deleuze vient juste de dire ça, le passage que je vous ai lu, c'est-à-dire il faut questionner les universaux, chercher à montrer, à les expliquer. Mais Gilles Deleuze ajoute quelque chose, et c'est là peut-être que je ne le suivrai plus. J'explique. Juste après le passage que je viens de vous lire, il ajoute « Se connaître soi-même, apprendre à penser, faire comme si rien n'allait de soi, s'étonner. Ces déterminations de la philosophie et beaucoup d'autres forment des attitudes intéressantes, quoique lassantes à la longue. Mais elles ne constituent pas une occupation bien définie. » Donc là, vous voyez, chez Gilles Deleuze, et c'est sur ce point que peut-être je ne le suivrai plus, le fait de créer en philosophie ne dépendrait pas de l'étonnement. L'étonnement, là il vient de le dire dans la phrase que je viens de vous lire, ça n'est pas quelque chose qui nous permet de créer. Alors qu'est-ce qui permet de créer pour lui ? Ici, il faut rentrer un petit peu dans sa philosophie pour comprendre pourquoi il dit cela. Pour Gilles Deleuze, alors ça c'est ce qu'on appelle une ontologie en philosophie. Qu'est-ce que c'est une ontologie? C'est une certaine conception de la réalité, une ontologie. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Et bien, pour Gilles Deleuze, la caractéristique essentielle de la réalité, c'est qu'elle produit sans cesse de la nouveauté. Alors là, il y a une influence extrêmement présente chez Gilles Deleuze de philosophes comme Spinoza ou comme Bergson. Je vous donne ces noms aussi, ils ne vous évoquent rien, n'hésitez pas à me questionner hein, sur ces philosophes ensuite, mais c'est déjà pour donner quelques liens possibles de la philosophie de Deleuze quelques liens possibles, oui, à la philosophie de l'Espagne. Pour Spinoza, la réalité, c'est quelque chose qui produit infiniment. Pour Bergson, la réalité, c'est quelque chose qui produit sans cesse de la nouveauté également. Mais Gilles Deleuze est très influencé par ces deux philosophes et conçoit la réalité de la même manière. Et donc, ce qui va être important pour Gilles Deleuze, ça ne va pas être de s'étonner, ça va être de saisir ce qui, dans la réalité, est le signe de cette nouveauté en production. Là, ça, c'est dans un autre livre de Gilles Deleuze qui s'appelle « Proust et les signes ». Et Gilles Deleuze dit, pour créer, il faut savoir saisir les signes de la nouveauté. Or, sur ce point, c'est là que peut-être, sur ce point, je ne le suivrai pas. Tout simplement parce que, alors, c'est un parti pris de ma part, et là aussi on pourra discuter, mais à mon avis, il me semble... Je trouve qu'à partir du moment où on pose une conception de la réalité de manière dogmatique, on est dans l'arbitraire. Et qu'il vaut mieux essayer de voir quel est l'acte humain, c'est-à-dire je suis plus anthropologiste qu'anthologiste, si on, quel est l'acte humain qui permet cela. La nouveauté, pour moi, n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la réalité, pas du tout. La nouveauté, elle naît à partir du moment, et c'est là-dessus que je me distinguerai, qu'elle naît à partir du moment où il manque quelque chose. C'est-à-dire où on a l'impression que la réalité, justement, ne donne pas tout. Et donc, il me semble essentiel, et c'est là que de maintenir dans le style philosophique, toute la notion de création que Gilles Deleuze défend, ça c'est sûr, création de concept, mais cette création de concept, là où peut-être je ne le suivrai pas, elle est fondamentalement liée à l'étonnement, c'est-à-dire au fait de montrer que dans des styles, des codes, des systèmes de représentation établis dans notre rapport à la réalité, il manque quelque chose fait exception. Je disais hier que l'étonnement, je vous en avais déjà un petit peu parlé, ça n'est pas la même chose que la surprise. C'est pas être surpris, être étonné en philosophie. Pourquoi ? Parce que il y a un côté plaisant dans la surprise. Pourquoi il y a un côté plaisant ? Parce que dans la surprise, il se passe quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que quelque chose ne correspond pas à nos attentes. Ça instaure une rupture dans une logique ou un désir qu'on avait. Et qu'est-ce qui se passe dans la surprise ? Ben, une fois qu'elle a eu lieu, cette surprise, on parvient à l'expliquer, le sentiment de surprise. On a toujours des mots pour le dire. Ah bah oui, d'accord, maintenant je comprends. Donc, au fond, la surprise, c'est bien, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de plaisant, mais c'est quelque chose qui nous fait, une fois qu'elle a eu lieu, revenir au même point. Elle change rien, la surprise. L'étonnement, c'est pas du tout ça. L'étonnement en philosophie, c'est un moment où se passe un événement, dirait Gilles Deleuze, mais, ou même Merleau-Ponty, mais où se produit dans votre expérience un manque au niveau de vos représentations et de vos pensées. Un manque inexplicable par n'importe quelle expression du langage, par n'importe quelle image, par n'importe quelle... Bref, c'est quelque chose qui fait exception, absolument. Mais en même temps, c'est pas un vide absolu, c'est-à-dire que l'étonnement étymologiquement, là, ça je le sors pas de nulle part non plus, hein, l'étonnement, c'est vraiment c'est la création d'une faille, étymologiquement. C'est quelque chose qui... Pardon ? Un hiatus, si vous voulez. C'est quelque chose qui instaure une faille. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'étonnement ? L'étonnement déstabilise complètement la conscience, il manque quelque chose, Et c'est ce moment où se mélange, en fait, le désir d'expression et le manque de moyens pour la réaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ce moment d'étonnement? Le moment d'étonnement est un moment très angoissant. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus rien pour verbaliser quelque chose, pour dire quelque chose, pour l'exprimer, vous êtes dans l'angoisse. Et là, il y a deux choses possibles qui se passent. Ou bien vous cédez au vide absolu, vous restez dans l'angoisse, ou bien si vous voulez en sortir, il y a une chose possible, une seule, créer. Créer une nouvelle représentation, un nouveau signe, un nouveau mot, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle idée. L'étonnement est une puissance extrêmement grande d'imagination. Mais ça suppose de créer ça suppose que de faire face justement à un vide de représentation. Et c'est là, et c'est pour ça que l'étonnement est pour moi le cœur du style philosophique. Souvenez-vous la définition du style qu'on a donnée. La définition du style, c'est ce moment où se crée quelque chose d'absolument original, autrement dit de non réductible à tout système d'idées, de représentations, de mots établis, donc absolument original, et où en même temps se crée quelque chose qui va donner un sens nouveau. La spécificité du discours philosophique, pour conclure un peu sur ce point, en dehors de l'ensemble des critères que j'ai rappelés et essayé de développer, là vous voyez qu'on va avoir un ensemble de critères maintenant pour essayer de déterminer un peu ce style, sa spécificité, et ce sera l'occasion de discuter, parce qu'évidemment quand on tente de définir un style, on manque toujours quelque chose. Mais c'est déjà une forme d'expression très particulière. Déjà, on a vu qu'elle était orale ou écrite, que l'écrit n'avait pas de privilège là-dedans. Que c'était une forme d'expression qui cherchait simultanément la vérité et la créativité. Une forme d'expression qui devait s'inscrire nécessairement dans l'espace public et dans une adresse au pouvoir, si on suit Foucault. Autrement dit, dans une remise en question institutionnelle. Une forme d'expression qui ne repose pas sur un objet qui lui est déjà donné, mais qui crée cet objet. Et cet objet, c'est quoi? Eh bien, quelqu'un l'avait un peu évoqué dans une question hier, de manière un peu indirecte, mais on me disait, je crois que c'était vous, monsieur, qui disiez que la philosophie avait pour tâche de donner sens, peut-être, à toutes les autres formes de discipline. J'étais pas tout à fait d'accord sur ce point parce que ça faisait, c'est ce que j'avais dit, de la philosophie la matière reine. Mais là, le problème n'est pas d'aller donner sens à d'autres disciplines. Le problème, c'est d'aller interroger ce qui, dans notre expérience, fait que notre expérience a une signification. Quelles sont les causes du sens de notre expérience? C'est à ça que s'intéresse la philosophie. Quels sont les fondements, les principes, inconscients ou pas, ça on verra. J'essaierai de rendre tout ça beaucoup plus concret en l'appliquant à notre époque contemporaine la semaine prochaine. Mais ça va interroger ce qui fait pour nous le fondement de la signification de notre monde, le fondement d'une culture, le fondement de nos valeurs, etc. Ça interroge ça. Et au moment où cette interrogation a lieu, se crée quelque chose. Exprimer cette interrogation, c'est déjà créer possiblement un sens nouveau. Et donc, ce qui me semblait vraiment extrêmement important dans la spécificité du style philosophique, c'était de restituer l'importance de l'étonnement, mais à tout point de vue. Notamment, et ça vous l'avez compris, je reviens à nouveau dessus, mais c'est pour faire le bilan, l'étonnement dans la lecture, l'étonnement dans l'écriture, l'étonnement dans la démarche, c'est-à-dire quelque chose qui vient souligner un manque dans un système de représentation établi et qui, en soulignant ça, en posant une question sur ce point, est déjà créateur. Et le rapport au texte, à un texte philosophique, à mon avis, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous lisez un philosophe, ce qu'il est important de retenir, je crois, et ça c'est une hypothèse de lecture, c'est pas ce qu'il dit, ça il l'a dit, justement. C'est ce qu'il manque en disant tout ça. Ce qui va être intéressant dans un discours philosophique, c'est pas tout ce qui est écrit. Une fois que c'est écrit, c'est cohérent, c'est logique, c'est bien de le connaître, pour l'érudition, peut-être. Mais la démarche philosophique ne va être pas là. La démarche philosophique, elle va être dans qu'est-ce que ce discours manque ? Qu'est-ce qui fait exception à ce discours ? De quoi ce concept ne rend-il pas compte ? Ça n'est pas un manque d'estime pour l'auteur que de dire ça. Bien au contraire. Parce que l'auteur donne à réfléchir. C'est ça le principal dans la philosophie. Mais c'est ce qui fait que la philosophie ne doit pas être quelque chose de dogmatique, ni de sacré. C'est ce qui fait qu'elle peut donner à réfléchir. Et donc, répéter une théorie philosophique, pourquoi pas ? Ça s'installe pendant un moment et on est content parce que ça explique des choses. Très bien. Mais il y a toujours un moment où doit être privilégié ce que manque un auteur. Et ça n'est pas lui faire offense. Ils ont tous fait ça. Tous se sont inspirés, dans l'histoire de la philosophie, ont repris les autres auteurs pour souligner l'estime et l'importance qu'avait leur théorie, mais aussi pour souligner ce que cette théorie manque, tout le temps. Et très souvent, la recherche fonctionne de cette manière dans beaucoup de domaines. Donc, à mon avis, admirer un auteur philosophique, ce n'est pas le vénérer. Ça n'est pas une idole. Il n'y a pas d'idole en philosophie. C'est une matière, c'est quelque chose qui donne à penser. Et donc le rapport à l'écriture doit être ce rapport, ce rapport de questionnement. J'achèverai là-dessus, mais pour ce cours-là, Nietzsche a sur ce point une phrase qui me semble vraiment très intéressante. Je l'avais déjà évoquée avec quelqu'un hier avec qui j'ai discuté pendant un moment. Nietzsche disait « qui m'aime ne me suive pas ». Autrement dit, si vous m'avez vraiment compris, si vous avez vraiment compris ce qu'est ma philosophie, votre premier réflexe, ça doit être de ne pas l'adopter et de chercher ce qui, dans ma philosophie, manque. Je vous remercie.